RFI, il est maintenant 15h, temps universel, 17h à Paris, Brest et Marseille. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
Du monde, des files d'attente parfois dans les bureaux de vote en France. Pour le premier tour des législatives, la participation est en forte hausse. Scrutin à suspense après la dissolution. Scrutin organisé dans l'urgence. Pour les municipalités, les électeurs, il a fallu s'organiser, vous l'entendrez. À suivre aussi un cessez-le-feu annoncé par un groupe dissident de l'ancienne guérilla des FARC en Colombie. Un accord dit de désescalade trouvé avec les autorités. Des perquisitions chez Thalès. En France, aux Pays-Bas et en Espagne cette semaine, le groupe français d'armement est soupçonné de corruption dans des ventes d'équipements militaires à l'étranger. Et puis, pas de JO pour Renaud Lavillenie. Le champion français du saut à la perche échoue à se qualifier pour les Jeux de Paris. Plus qu'une heure pour voter dans la plupart des communes en France. Dans les grandes villes, les bureaux fermeront un petit peu plus tard à 20h pour ces législatives anticipées. Ce dimanche, le premier tour, un scrutin très particulier. 3 semaines après l'annonce de la dissolution, 3 semaines de campagne éclair et mouvementée. Il a fallu faire vite pour organiser les opérations de vote, pour s'organiser tout simplement pour les électeurs qui avaient prévu autre chose. À Nanterre, dans le bureau de vote de l'école maternelle Sayad, chacun a dû faire un effort pour s'adapter. Reportage Amélie Beaucourt.
Il y a des petits loupés ce matin, mais c'est pas grave, il y a la débrouille.
Téléphone dans une main, thermos de café dans l'autre, Anne-Gaëlle, responsable de ce bureau de vote de Nanterre, gère depuis ce matin des couacs prévisibles.
Au même titre, à mon avis, qu'il y a un déni démocratique du fait de ce délai très court qui permet pas la délibération, qui permet pas le débat. Il y a aussi un problème, ça pose aussi des problèmes logistiques en fait.
Les citoyens, eux aussi, ont dû s'organiser. Clémence est venue avec son fiancé.
En fait, on se marie dans 2 semaines, donc on rentre dans notre région pour préparer notre mariage et on voulait plutôt partir hier, mais bon, au final, on part ce matin.
Des vacances reportées pour voter, selon Manuela, c'est presque une bonne nouvelle.
Que les gens changent leurs plans, c'est plutôt un bon signe, en tout cas pour l'engagement citoyen. Après, évidemment, le vote, c'est un choix personnel.
Djibril, lui, n'a pas modifié ses plans, mais reconnaît que cette élection a un goût particulier.
Un peu plus importante face aux dangers qui nous regardent, nous, on va dire, surtout les racisés. Mais bon, je vote depuis, j'ai 42 ans, donc c'est normal, quoi. Il fallait juste se déplacer, être au rendez-vous comme d'habitude.
Dans ce bureau de vote, traditionnellement, la participation est importante. Elle promet d'être encore plus grande pour ce scrutin anticipé.
Amélie Beaucourt, et on retrouve maintenant Aurélien Devernois en direct. Vous suivez les opérations de vote à Paris. Justement, les derniers chiffres de la participation du ministère de l'Intérieur viennent de tomber. Ils confirment cette forte mobilisation des électeurs par rapport aux législatives de 2022.
Oui, tout à fait, Charlotte. Depuis ce matin, l'affluence aux urnes a été plus importante qu'il y a 2 ans. 25,90% de participation à la mi-journée, c'est 7 points de plus que lors du premier tour des précédentes législatives. Et à 17h, on vient de l'apprendre, cet écart s'est encore fortement accentué. 59,39% ce dimanche contre 39,42% il y a 2 ans. C'est énorme, c'est 20 points de plus. Si cet écart se maintient ou s'amplifie encore, ce pourrait être les législatives avec le plus fort taux de participation depuis les élections qui avaient suivi une autre dissolution, celle de 1997, avec presque 68% des électeurs qui s'étaient déplacés aux urnes, élection conclue à l'époque par une victoire de la gauche plurielle. Mais cette année est évidemment différente, avec de gros scores attendus pour le Rassemblement national. Certains députés RN poussés par cette participation pourraient même être élus dès ce premier tour. Quoi qu'il en soit, la lecture précise de la participation et des résultats n'interviendra pas avant 20h, date de fermeture des bureaux de vote dans les grandes villes, et plus probablement vers 21h30, quand les résultats de ces mêmes grandes villes donneront une vision globale de la situation. Il faut savoir qu'une forte participation avec les 3 blocs en présence, RN, Nouveau Front Populaire, c'est l'Alliance de la Gauche, et Alliance Présidentielle, a toutes les chances de mener à un grand nombre de triangulaires, c'est-à-dire de qualification de 3 candidats pour le second tour, avec par conséquent une forte incertitude sur les résultats du second tour.
Aurélien Devernois, et donc ce dernier taux de participation à 17h, taux de 59,39% pour le premier tour des législatives en France. À suivre en live sur RFI.fr et puis édition spéciale tout à l'heure, résultats et décryptage. Rendez-vous à partir de 17h45, temps universel. vers une nouvelle alliance au Parlement européen. C'est en tout cas ce que souhaite le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui s'apprête à prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union ce lundi. Il veut donc former un nouveau groupe qui comprend déjà le parti d'extrême droite autrichien et le mouvement populiste de l'ancien Premier ministre tchèque Andrej Babiš. Cette nouvelle alliance, elle a déjà un nom, Patriote pour l'Europe, mais elle a besoin du soutien des partis de 4 autres pays pour être reconnue comme un groupe parlementaire à part entière. Les chars israéliens continuent d'avancer ce dimanche dans le nord de la bande de Gaza, notamment dans la ville de Gaza. L'armée israélienne affirme y avoir trouvé hier des armes et avoir éliminé plusieurs terroristes, je cite. Les populations civiles sont prises au piège, elles fuient la zone mais sans savoir où aller après plus de 8 mois de guerre acharnée entre l'État hébreu et le Hamas dans le petit territoire palestinien. En Colombie, le groupe est connu sous le nom de Segunda Marquetalia. C'est une dissidence de l'ancienne guérilla des FARC. Ce groupe a annoncé un cessez-le-feu et la libération d'otages. C'est le résultat de négociations avec le gouvernement qui se tiennent depuis le début de la semaine à Caracas, au Venezuela. Une avancée donc, Antoine Galen, même si la date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu n'a pas encore été précisée.
Dans ce document signé par le négociateur en chef du gouvernement Armando Novoa et celui de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza, on apprend que cette désescalade commencera dès l'entrée en vigueur du décret présidentiel sur les opérations militaires offensives. Le groupe rebelle s'est donc engagé à un cessez-le-feu, à la libération des otages, mais aussi à ne pas rester armé ou en uniforme dans les centres urbains ainsi que sur les voies terrestres et fluviales. Le texte précise, je cite, que le cessez-le-feu unilatéral de la Segunda Marquetalia n'implique pas la limitation des pouvoirs constitutionnels et légaux des forces de sécurité. Une réunion aura lieu à Tumaco, à l'ouest de la Colombie, au plus tard le 20 juillet, pour présenter cet accord de désescalade. La Segunda Marquetalia, deuxième groupe dissident des ex-FARC derrière l'état-major central, avait annoncé l'ouverture du dialogue en février. Le président Gustavo Petro, premier homme de gauche à accéder au pouvoir en Colombie en 2022, lui-même ancien membre dans sa jeunesse d'une guérilla d'extrême gauche, s'était engagé à dialoguer pour sortir de ce conflit qui date depuis 1964.
Antoine Galen, alerte à l'ouragan dans les îles du sud-est des Caraïbes, à la Barbade, Sainte-Lucie ou encore Grenade, à l'approche de Beryl. Beryl, c'est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, désormais classé catégorie 3 avec des vents dépassant les 180 km. Et Beryl continue de se renforcer. Il pourrait passer en force 4 sur une échelle qui en compte 5. Force 4, ça correspond à des vents approchant les 210 km/h. Une marche pacifique ce dimanche à Nairobi, au Kenya. Mobilisation spontanée en hommage aux victimes des manifestations contre le gouvernement et le projet de budget. La marche de mardi qui a dégénéré. Les autorités n'ont pas communiqué de bilan, mais l'organisation Human Rights Watch fait état de 31 morts. Après la répression des forces de l'ordre dans plusieurs villes du pays. Des perquisitions dans les locaux de Thalès, dans plusieurs pays européens cette semaine. Le groupe français de défense, l'un des plus importants du monde, en cause des soupçons de corruption. Deux enquêtes préliminaires sont en cours. Agnieszka Kumor.
Les perquisitions ont eu lieu en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Les faits reprochés sont graves. Corruption, trafic d'influence d'agents publics étrangers, associations de malfaiteurs, blanchiment et recel de ces infractions dans le cadre de différentes opérations de vente de matériel militaire et civil à l'étranger. Les soupçons des enquêteurs portent sur un contrat de 2008 pour la vente de sous-marins au Brésil, montant du contrat évalué à plus de 5 milliards d'euros. Un deuxième volet du partenariat visait la construction d'une base navale dans le sud-ouest de l'État de Rio de Janeiro. La deuxième enquête, dont on apprend seulement l'existence, a été ouverte en juin 2023. Thalès, un fleuron français à plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est par ailleurs soupçonné d'avoir versé des pots de vin à l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. D'autres enquêtes visent notamment les coulisses de la vente de sous-marins à la Malaisie en 2002, ainsi que l'obtention du marché de la rénovation d'avions de chasse Mirage 2000 en Inde.
Agnieszka Kumor, pas de JO pour Renaud Lavillenie. Le sauteur à la perche ne participera pas aux Jeux de Paris. Le Le champion de 37 ans devait franchir la barre des 5,82 m au championnat de France d'athlétisme d'Angers et c'est raté. C'était sa dernière chance de se qualifier. Et puis, l'Euro de foot, deux matchs à suivre tout à l'heure en huitième de finale. Angleterre-Slovaquie et puis Espagne-Géorgie. Coup d'envoi 19h, temps universel. Mais pour le moment, et je vous le conseille, c'est la marche du monde avec Valérie Nivelon, consacrée à l'ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba.